Mais pourquoi pas parler de hockey avec Martin Thériault? Et il est là, Martin, avec nous. Comment tu vas, Martin?
Ça va bien, vous autres, les gars?
Ça va bien. Fais attention à ce que tu dis. On t'écoute à chip, là, alors.
Écoute, d'après moi, les Chypriotes ne comprendront pas nécessairement qu'est-ce que je vais dire, là. Mais c'est de dire à quel point les gens aiment BPM Sport au point de l'écouter un peu partout dans le monde, là. C'est flatteur un peu pour vous, entre autres.
Quand tu t'es connecté ce matin sur le Zoom, est-ce que tu pensais utiliser le mot Chypriote dans ta chronique de hockey?
Je te confirme que non, ouais. Puis honnêtement, Chypre, c'est peut-être pas une grande nation de hockey. Je sais même pas si on a une équipe. Il y en a sûrement une, là.
Ouais. Mais
d'après moi, le talent est pas incroyable.
Dis-moi que tu l'as pas sur tes radars, sinon je vais commencer à penser qu'il va falloir t'envoyer à l'asile, Martin. Là, t'es pas supposé regarder le hockey à Chypre, là.
Pas là, exact.
Hey, le Canada, hier, a perdu contre la Finlande au camp estival du Mondial Junior. Là, écoute, je voyais ce que tu m'avais envoyé ce matin. Je sentais un peu d'inquiétude en toi. Est-ce que je dois te rassurer et te dire qu'on est le 31 juillet ou ça va, là?
Non, ça va quand même bien, là. Tu sais, c'est ça, tu l'as mentionné, on est quand même le 31 juillet. Il n'y a pas de panique. Premièrement, c'est même pas proche d'être l'équipe du Mondial Junior et tout ça. Et par contre, la seule chose qui m'a peut-être un peu déçu dans le match hier, bon, évidemment, la Finlande, c'était quand même leur troisième match avec sensiblement la même équipe. T'as quand même que t'avais quelques absents et tout ça. On jongle avec les formations. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui sortent de la formation tout le temps. Moi, la seule chose qui m'a peut-être déçu un petit peu hier, qui manque un peu d'exécution, ça je peux comprendre, qu'il y a peut-être des petites erreurs au niveau prise de décision, parce qu'on est peut-être un peu moins rapide, parce que là, après, la Finlande a appliqué un bon échec avant, honnêtement, tu sais, je pense que ça a été assez clair, là. On a bien fait du côté de la Finlande, c'est pas diminué, qu'est-ce qu'on a fait. Moi, ce que j'ai peut-être été un peu plus déçu de voir hier, c'est que ça fait deux éditions du Mondial Junior où justement on a de la difficulté. Où on perd en quart de finale, où t'as énormément de pression, où tu veux justement t'assurer de faire les bonnes choses pour en finalement t'en sortir et tout ça. Et hier, moi, ce qui m'a déçu beaucoup, c'est qu'au niveau de l'effort, c'était même pas proche, on était deuxième. Les Finlandais ont beaucoup moins de talent, il y a beaucoup moins de joueurs repêchés dans la LNH et tout ça. Et pourtant, hier, ça a fait vraiment déçu. C'est vraiment là-dessus que ça m'a déçu. Puis tu sais, si t'arrives en deux ou en troisième période, que le pointage est un peu plus... tu tires un peu plus de l'arrière. Tu sais, c'était 3-1 après une, c'était 4-1 après deux périodes. Et là, tu continues de t'enfoncer. Et là, évidemment, tu commences à avoir de la frustration. Et moi, c'est ça qui m'a déçu, c'est que on aurait pu décider, donc on se motive, écoute, on en donne un peu plus, on essaie de montrer à tout le monde, écoute, on est capable de battre la Finlande, même si on n'a pas la même chimie, même si on n'a pas développé les mêmes automatismes. C'est peut-être ça qui m'a déçu un petit peu, c'est que je trouve qu'au niveau de l'effort, et on le veut un peu dans le match intra-équipe également, ça dépend, c'est pas tout le monde qui est dans ce scénario-là, mais j'aurais préféré de voir peut-être 3 ou 4 joueurs là, qui sont capables d'avoir le couteau entre les dents et d'en donner un peu plus.
Est-ce qu'il y en a en particulier certains qui ont peut-être une moins bonne note dans leur cahier estival?
Ouais, ben ça c'est clair, là, tu sais, puis c'est pas nécessairement une question d'effort dans son cas, mais je te dirais qu'un gars comme Michael Misa, puis encore une fois, on est au mois de juillet, faut pas sonner la sonnette d'alarme, c'est possible qu'il a simplement besoin de retrouver son air d'aller et tout ça, peut-être qu'après plusieurs matchs, ça va bien se passer cet automne, mais moi, Michael Misa me déçoit quand même pas mal. On l'a placé au centre, bon, notamment d'un Michael Age hier, et encore une fois, tu vois le coup de patin, tu vois qu'il se donne un peu, mais il prend toujours la mauvaise décision, il prend beaucoup de mauvais pli un petit peu défensivement et tout ça. Et tu sais, on l'a vu notamment dans le match intra-équipe, il était avec Gavin McKenna, notamment, et Justin Carbonneau. Puis tu sais, ce trio-là n'a pas généré énormément de choses parce qu'on dirait que Misa n'était jamais très bien placé dans le jeu. De transition n'était pas nécessairement là, pas capable de récupérer la rondelle et de vraiment faire progresser le jeu, d'être en mesure de t'amener en zone adverse et de créer des choses. Donc, tu sais, c'est ça, je le répète, au mois de juillet, les joueurs ont le temps de reprendre leur air d'aller. Ça se peut que Misa connaisse une excellente saison également, peu importe où il va se retrouver. Mais tu sais, pour quelqu'un qu'on étiquette peut-être comme le joueur le plus près de la LNH cette année, honnêtement, moi, je trouve que c'est rien de rassurant du tout là en ce moment.
Atos Koivu, lui, dans son cas, je pense qu'il t'a fait bonne impression. Il nous fait tous bonne impression. Chaque fois que je vois des nouvelles de cette vitrine estivale, ben j'entends parler qu'Atos Koivu a eu de bons moments. Il a marqué 2 fois hier dans le match contre le Canada. Ça lui a fait quoi? 4 buts depuis le début de la compétition?
Ouais, exactement. 4 buts en 3 matchs. En fait, c'est 4 à ses 2 dernières rencontres exactement. Là. Et avec tout ce qu'il vaut, tu vois que plus ça va, plus il ajoute des cordes à son arc. Et là, clairement, prend de la confiance. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup d'Atos Koivu. Au niveau intensité, on le sait qu'est-ce qu'il apporte. On se rappelle de Saku Koivu. Atos Koivu offre le même niveau de jeu. C'est quelqu'un qui est toujours très intense malgré sa petite taille. Va appliquer beaucoup d'échecs avant. Est en mesure de créer des revirements et tout ça. Crée, est en mesure encore une fois de provoquer quelques punitions et tout ça. On l'a même vu à la fin du match avec en se mêlant dans une espèce de mêlée avec Michael Age. Il s'est fait frapper, ça a quand même fait mal et tout ça. Le sifflet s'est fait entendre. Il est tout de suite allé voir Michael Age, il commençait à l'enguirlander pas mal.
J'avais envie de dire, les gars, vous allez jouer ensemble dans quelques années, là. Fâchez-vous pas l'un contre l'autre, là.
Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est intéressant, c'est de voir à quel point Koivu, tu sais, n'a pas froid aux yeux. Il va être en mesure d'aller répliquer. C'est pas quelqu'un qui va se laisser manger la laine sur le dos et tout ça. Et tu sais, il faut pas quand même pas paniquer. C'est un contexte de match et tout ça. C'est normal que les esprits s'échauffent un petit peu, mais c'est ça que j'aime d'Atos Koivu. Tu sais, il est pas gros, mais il va quand même être en mesure d'aller travailler fort. Il est quand même en mesure d'aller appliquer de l'échec avant. Et tu sais, et je trouve qu'au même au 4 perfectionnement, les Canadiens, parfois, au niveau physique, c'était peut-être un peu plus compliqué. Il y a peut-être un peu plus de difficulté à s'en sortir lorsque, physiquement, t'arrivais dans les bagarres un contre un. Il était peut-être pas toujours à l'aise, mais ce que j'aime, c'est que depuis le début de ce camp-là, du premier jusqu'au troisième match, il est de plus en plus à l'aise, il est pas mal plus capable de contrôler la rondelle dans des zones quand même assez restreintes, et on l'a vu hier, même contre le Canada, même contre plusieurs excellents espoirs, il était capable de réaliser vraiment de belles feintes, capable de pivoter au dernier moment, d'aller chercher des grosses chances de marquer. Et tu sais, je pense que c'est ça l'histoire d'Atos Koivu. C'est quelqu'un qui, je me souviens, lui, il y a 2 ans à peine, lorsque je l'ai regardé pour la première fois, c'est pas quelqu'un qui avait énormément d'arsenal, c'est quelqu'un qui s'est développé d'une façon très rapide depuis 2 ans, et je trouve qu'il montre encore aujourd'hui là, le niveau de jeu qu'il offre en ce moment par rapport à ça, il y a 6 mois environ, là, c'est à un autre niveau. Tu vois qu'il est intelligent et qu'il est capable de trouver des façons de s'améliorer. Là.
Un nom sur lequel je veux t'entendre, c'est Michael Age. Tu en as brièvement parlé à quelques reprises en parlant de l'escarmouche qu'il a eu avec Atos Koivu, mais il l'a marqué encore une fois hier. Ça, c'est de bon augure parce que pour les gens là, peut-être qui écoutent et qui ne sont pas familiers avec ce camp-là, le but, c'est de laisser une bonne carte de visite. C'est de faire en sorte que lorsqu'on va arriver à l'automne, les dirigeants vont se dire « Eh lui, je l'ai aimé cet été. » Et Michael Age va avoir sa chance de faire partie d'équipe Canada Junior, mais là, en plus d'avoir déjà cette chance-là de par son talent et de par le fait que ça va être une grosse saison pour lui, mais il connaît un bon camp estival là, cette année. Là.
Ouais, hier, je pense que c'est un bon mandat pour lui. Tu sais, j'ai parlé de Michael Misa, il était à l'aile de Misa, il était à l'aile également, il jouait sur un trio avec Caden Lindstrom aussi, qui a été pas mal plus ordinaire que dans le match intra-équipe d'équipe canadienne. Là. Mais Michael Hitch, que j'ai trouvé intéressant hier, bon, j'ai parlé du fait qu'il y a eu un gros manque d'intensité du côté du Canada, que c'est pas tout le monde qui se donnait, mais au moins Michael Hitch a été l'un des rares à fournir un effort très constant. On le sait très bien, au niveau de son coup de patin, il est dynamique, c'est quelqu'un qui est capable d'exploser rapidement. Il a beaucoup de rythme dans son jeu et ça lui a rapporté hier. Tu l'as vu qu'il était capable de générer des choses un petit peu plus en échec avant. J'ai trouvé également, et moi c'est un détail que je lui reproche souvent depuis l'an dernier, défensivement c'est pas toujours évident. C'est pas toujours quelqu'un qui sait, par exemple, s'il est en tant que joueur de centre, d'être un peu plus en retrait, de ne pas trop appliquer de pression, d'y aller quand c'est ton tour, mais d'être capable de reconnaître ces situations-là. Michael Age a toujours eu quand même de la difficulté, mais hier, c'est peut-être été l'un des, sinon le meilleur match défensivement que j'ai vu de lui, où il était justement capable, quand c'était le temps d'appliquer de l'échec avant, d'être agressif, d'aller en coin de patinoire, de s'impliquer un contre un, et j'ai trouvé aussi... Et c'est sûr que la Finlande n'a pas des attaquants très imposants, là, mais il est en mesure de gagner son lot de bagarre, il est en mesure de récupérer la rondelle et de créer certaines choses. Puis tu sais, ben on l'a vu, là, son but, là, c'est pas compliqué. Il s'est dirigé au filet, Cole Rushney a lancé. Il est allé faire des vieux un tir, a récupéré la rondelle, puis a été en mesure de marquer d'une belle fin. Donc, ça, je te dirais que pour tout ça, c'est très positif. Et tu l'as mentionné, Jasmin, pour envoyer un message à l'équipe canadienne que tu as premièrement un bon coup de patin. C'est toujours très important pour amener du rythme et tout ça. Là, tu es capable de tirer aussi. Tu es capable, justement, d'amener un bon effort. Donc, ça veut dire que, bon, dans un rôle peut-être de top 6, c'est intéressant, mais en plus, si tu veux lui confier un rôle peut-être de joueur de soutien, ben ça devient plus intéressant parce qu'au moins, il y a le coup de patin et il y a l'intensité. Là.
Un que je voulais te demander tes impressions, tu as eu l'occasion de suivre ce camp-là d'encore plus près que moi. Là, je suis ça un peu, mais j'ai pas eu la chance de voir les matchs avec autant d'attention que toi. Matthew Schaefer a joué, comment tu l'as trouvé? Parce que c'était un premier match pour lui depuis décembre l'an dernier. Ça a fait du bien de le revoir en action un peu. Comment tu l'as trouvé, Matthew Schaefer?
Matthew Schaefer est impressionnant. Honnêtement, là, hier, peut-être un peu plus effacé, c'est normal, ça s'est moins bien passé pour l'équipe canadienne. Mais dans le match rouge contre blanc, là, moi, selon moi, là, il était une bonne coche par-dessus tout le monde. Là. Vraiment, là, tu vois que son coup de patin, il est dynamique. Tu vois qu'il a un sens du jeu, une façon de voir l'action se développer devant lui de façon hallucinante. Donc, tu sais, il est capable d'avoir un bon coup de patin, il se porte à l'attaque. Et par la suite, ça prend pas trop de temps pour qu'il soit capable de réagir, qu'il soit capable d'alimenter ses coéquipiers. Pas peur de prendre, de quitter sa position. Pas peur de créer du chaos, d'ouvrir des occasions, des lignes de passe pour ses coéquipiers. J'ai adoré ce que j'ai vu, notamment dans le match intra-équipe. C'est ça. Je pense qu'hier, c'était plus effacé, mais au moins, tu vois, il trouve une façon de générer un peu de l'attaque. Il y a peut-être défensivement que ça a été... il y a un but notamment où il a peut-être laissé un peu trop d'espace au tireur devant lui, là, mais tu sais, c'est un mini-détail. Là. Sinon, non, j'aime vraiment beaucoup ce qu'on voit de Matthew Schaefer. Là.
Il nous reste quelques minutes, Martin. J'aurais peut-être eu envie de terminer un peu avec quelques nouvelles LNH. J'en ai parlé avec Alexis plus tôt dans l'émission, mais il y en a eu quelques-unes hier en rafale qui ont retenu mon attention, notamment Nick Robertson, qui est maintenant le dernier joueur qui pourrait toujours aller en arbitrage. Sa cause, si on peut l'appeler ainsi, doit être entendue le 3 août prochain, normalement. C'est un joueur autonome avec compensation, mais on sait qu'il a demandé à un certain moment une transaction. Comment tu vois cette situation-là? Est-ce que c'est voué à un départ dans son cas de Toronto, peu importe l'issue de comment ça va se passer en arbitrage, ou il y a encore une chance qu'il reste à Toronto?
Moi, je pense que la fin approche pour Nick Robertson à Toronto. Là, je regarde un peu la situation. Je regarde les acquisitions qu'on a fait du côté des Maple Leafs. Je regarde, Dakota Joshua qu'on a ajouté. On a ajouté Nicolas Roy via transaction. Évidemment, on a perdu Mitch Marner, mais clairement, l'indication du côté de Brad Treliving, du directeur général, on veut se grossir. On va avoir un 3 ou un 4e trio un peu plus robuste qui va les aider peut-être éventuellement à battre les fameux Panthers de la Floride, qui est une référence que tu as besoin vraiment de battre et tout ça. Et Nick Robertson, à 5 pieds 9 pouces, c'est sûr que c'est moins évident. C'est sûr que tu as des éléments un petit peu offensifs aussi. Tu as ajouté un Mathias Maccelli également via transaction et tout ça. Donc, j'ai l'impression que Nick Robertson, ça sent moins bon. Et tu regardes un peu sa production dans les dernières années. Là, au moins, on a réussi à éviter les blessures et tout ça. Mais c'est pas encore idéal. Donc, j'ai l'impression que du côté des Maple Leafs, ce qu'on va se dire, c'est qu'on a... Puis je regarde la formation, on a tout simplement pas de place. Donc, je sais que les Maple Leafs, il y a beaucoup de rumeurs qui les placent dans des discussions pour aller chercher un attaquant top 6, peut-être éventuellement. Et je dis pas que Nick Robertson va apporter ça. Mais est-ce qu'il y a un moyen de prendre un Robertson, peut-être un autre joueur ou... On n'a pas le choix de premier tour en 2026, mais peut-être 2027. Est-ce qu'on est capable de concocter quelque chose et simplement aller chercher du renfort et tout ça? Moi, je trouve que Nick Robertson, vraiment, c'est... Premièrement, ça peut être un beau pari pour une équipe, là, pis tout dépendant du prix que tu peux donner. Et je regarde ça là, vraiment du côté des Leafs. Là, ça sent pas très bon. On s'entend, là, les relations, tu l'as mentionné, Jasmine, ne sont pas très bonnes depuis plusieurs années. Là.
Je reste au Canada avec toi, Martin. Je me déplace vers l'ouest à Edmonton. T'en as parlé de Connor McDavid plus tôt cette semaine dans l'une de nos chroniques. Je voyais hier Stan Bowman qui a parlé à la radio avec une station de radio locale en disant qu'il avait eu des premières discussions encourageantes avec Connor McDavid. Lui-même, McDavid, a dit à la fin de la dernière saison qu'il voulait jouer avec une équipe qui allait tout faire pour gagner, que ça allait être le critère numéro un pour décider de son prochain contrat et qu'il voulait être patient avant de signer. Alors, on s'attend pas du tout à ce que ça se passe cet été, selon moi, ça va venir dans les prochains mois. Mais comment t'as vu cette déclaration-là de Stan Bowman, qui évidemment veut essayer de tout faire pour garder le meilleur joueur de la Ligue nationale avec lui?
Ben, là, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de surprise là-dedans. T'sais, à un moment donné, le plan des Oilers d'Edmonton, c'est, t'sais, ça passe par Connor McDavid. T'as bien beau avoir Leon Draisaitl, t'as bien beau avoir Evan Bouchard, Andrew Mangiapane, tous les joueurs que tu veux. Si t'as pas Connor McDavid, ça fait extrêmement mal. T'es obligé de changer un peu ton fusil d'épaule. Donc, t'sais, je pense que c'est normal du côté de Stan Bowman de mettre les efforts. Je pense que c'est normal qu'il y ait de l'optimisme également. T'sais, à un moment donné, si t'es Connor McDavid, je pense que t'es intéressé à condition de justement voir les Oilers montrer des gestes significatifs pour aller t'améliorer, pour être en mesure, et je dis n'importe quoi, mais de t'améliorer par exemple devant le filet, ou t'améliorer ou amener un peu plus de profondeur à l'attaque. Je pense que Stan Bowman a tenté de le faire justement en changeant quelques morceaux, en laissant partir justement des Evander King, des Jeff Skinner, des Victor Arvidsson, et en allant chercher justement un Mangiapane, des gars comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de surprise. Je comprends très bien McDavid de vouloir attendre, parce que moi, je l'ai déjà mentionné un petit peu il y a quelques semaines avec Anthony Desaulniers, là. Je pense que les Oilers, honnêtement, il y a quelque chose d'inquiétant quand même. Je trouve que, tu sais, la base n'est pas tellement solide et tout ça. Donc, si c'était McDavid, tu regardes ça, et tu l'as bien mentionné, d'être patient, de regarder comment ça se dessine.
La
ça,
prochaine moi, saison va être importante pour les Oilers, pour savoir si on peut et si McDavid va vouloir rester.
Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai l'impression que McDavid, tu regardes cette situation-là, ça se peut que tu arrives environ à... disons en janvier ou en février, que tu dises bon ben finalement je veux gagner la Coupe Stanley, c'est peut-être pas l'endroit. Moi je pense que des joueurs qui vont commencer à être vieillissants, ça va être un peu moins évident d'avoir justement des éléments pour se battre avec les meilleures formations de la LNH, et je pense qu'à partir de ce moment-là, ben ce serait pas une surprise de voir peut-être un McDavid regarder ailleurs. Mais pour l'instant, et je pense que son souhait numéro un, c'est quand même de gagner à Edmonton. Il y a quand même énormément de pression à ce niveau-là. Ça fait quand même plusieurs années qu'il se fait mettre ça sur le nez. Donc, à quelque part, là, je pense que pour lui, c'est important aussi. Mais tu sais, c'est ça. Ça dépend de la volonté de l'équipe aussi.
Mm-hmm. Martin, je vais me faire la courroie de transmission en terminant cette chronique en te relayant un message de Daniel qui t'envoyait ses salutations en te disant merci pour les chroniques estivales rafraîchissantes qui mettent la table pour la prochaine saison de hockey. Daniel dit qu'il t'a découvert au Club du matin et qu'il a beaucoup apprécié ta chronique cet été pour le changement de saison et pour le pont. Alors, merci Martin d'être avec nous à tous les matins et c'est un plaisir de te parler.
Ben, ça fait plaisir. Quand on parle de hockey, là, c'est jamais trop un problème. Là. Je pourrais faire ça toute la journée.
Ouais, je sais, je suis capable de t'envoyer sur n'importe quoi. Tant qu'il y a une rondelle et un bâton, je sais que tu vas pouvoir me répondre.
Ouais, exactement. Ben, c'est ça. C'est une passion pour moi, c'est une passion pour les auditeurs aussi. Donc, très. Ben oui. Très important de le partager avec vous et tout ça. Là.
Merci beaucoup, Martin. Bonne journée, puis on se parle demain à la même heure.
Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais ça fait plaisir, Jasmin.